Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour parler temps qui court. Tous les soirs, c'est une conversation qui dure une heure avec les artistes. Ce soir avec le musicien Vincent Courtois.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux t'appeler,
ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Voilà, ça résume.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Vincent Courtois.
Alors on va commencer comme ça, exceptionnellement un peu sur la pointe des pieds ce soir. Si on était dans un bois, on s'arrangerait pour ne pas faire craquer les branches, on choisirait l'aube, on tâcherait de respirer bas, on tendrait l'oreille aux premiers oiseaux, on se dirait qu'ils chantent pour nous, évidemment, alors qu'ils chantent pour eux, évidemment. On va commencer comme ça parce que c'est ainsi que s'ouvre votre dernier disque, Vincent Courtois, avec le morceau « Love of Life », un amour de la vie, reprenant le titre d'une nouvelle que Jack London publie aux États-Unis en 1905. Il y est déjà question d'un acharnement à exister, une rage vitale. Un homme blessé est abandonné à sa seule force dans l'immensité gelée et bientôt un loup se met sur ses traces. Une sorte de corps à corps les fait finalement s'affronter et l'homme se retrouve, je cite, « la bouche pressée contre la gorge de la bête et sa bouche était pleine de poils ». Au bout d'une demi-heure, l'homme avait la sensation de quelque chose de tiède qui coulait dans sa gorge. Ce n'était pas plaisant. C'était comme du plomb fondu qu'on forçait dans son estomac, que sa volonté seule y forçait. Plus tard, l'homme roula sur son dos et dormit. En suivant les traces dans la neige, c'est exactement comme cela que semble avancer ce premier morceau d'un disque qui chemine, lui, suivant les traces du romancier Jack London, ou plutôt suivant les traces que sa lecture a pu laisser en vous. Pour cette aventure, vous êtes accompagné par Robin Finker et Daniel Erdmann pour la clarinette et le saxophone. Le disque est paru sur le label La Buissonne. Il se trouve que vous entrez dans une émission où on diffuse souvent votre musique, Vincent Courtois, mais là on a carrément piqué votre musique pour changer notre générique, parce que c'est une manière d'entrer dans ce projet qui, il me semble, très invitante, comme s'il y avait une sorte d'évidence dans ces premiers comme ça accords. On a coupé le tout début du morceau qui avance encore plus à pas comme ça de velours. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est arrivée cette suite d'accords avant que cette phrase musicale là qui se répète n'arrive, Vincent Courtois?
Cette suite d'accords, elle est arrivée très simplement, très naturellement. Moi, je suis un musicien improvisateur et compositeur, et j'aime bien me dire que la musique, dans ce que je fais généralement, vient à moi le plus naturellement possible.
Ce qui est bien pour un improvisateur.
Absolument, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire d'éviter justement que ce soit que des techniques que des techniques fassent venir la musique. J'essaie que de me dire que la technique que l'on a pu acquérir au fil des années soit là comme un outil qui donne juste les possibilités de retranscrire ce qu'on ressent réellement. Donc ça veut dire que j'essaie de me dire que la musique vient totalement naturellement. Et j'aime bien l'idée d'avoir un prétexte. Et toutes ces lectures qu'il y a eu sur Jack London, c'était mon prétexte. Et comme assez souvent, juste en lisant cette nouvelle Love of Life, finissant en lisant la dernière phrase, et ben cette fois-ci, je me suis mis au piano. C'est pas toujours au piano. Mais là, ce coup-ci, je me souviens très bien que c'était au piano. Et ça arrivait complètement naturellement. Et en effet, tout d'abord par cette petite suite d'accords et par une tonalité do. Voilà, comme une espèce de la première tonalité, la première gamme qu'on apprend, celle, la fameuse où il n'y a pas de dièse ni de bémol, celle où il n'y a que les touches blanches, comme la neige, comme le... Voilà, comme une espèce d'évidence.
Oui, il y a vraiment un truc qui se pose en fait. Hein,
et c'est exactement... Je suis pas pianiste, mais je joue du piano comme quelqu'un qui est pas pianiste. Quoi. Et donc de poser les doigts sur un piano et tout de suite d'avoir ces premiers accords qui arrivent. Après, c'est vrai que ce que je ressens aussi là en le réécoutant, parce que je l'ai pas réécouté depuis, mais ce que je ressens à chaque fois quand on commence les concerts, comme hier ou dans la semaine dernière, on a joué, c'est de... On commence le concert de cette manière-là aussi. Et je pense qu'avec, peut-être avec un petit peu d'expérience, un petit peu d'âge et tout ça, il y a certaines choses qu'on arrive à régler, se dire, voilà, on peut aussi commencer comme ça. On peut commencer un disque ou un concert de manière extrêmement simple, avec des choses très simples et qui sont simplement belles. Et justement, je me force aussi, dans ces premières notes au violoncelle, de les jouer le plus simplement possible. Juste poser les notes, en se disant que ne serait-ce que le plaisir que je peux prendre à poser simplement des notes sur le violoncelle peut éventuellement suffire. Et elles sont déjà... C'est déjà... Ça remplit complètement. Et en effet, je trouve que ça remplit et ça raconte. Et ça raconte un rythme. Et ce que j'ai découvert en lisant Jack London, que j'avais peut-être pas découvert avant avec d'autres auteurs, mais que maintenant je reproduis avec d'autres auteurs, c'est la sensation d'un tempo. Un tempo d'écriture qui amène à un tempo de lecture. Et je pense qu'on ne lit pas tous les mêmes auteurs à la même vitesse. Et même après, à l'intérieur même des œuvres, une œuvre comme celle de Jack London, on ne lit pas toutes les mêmes histoires ou les mêmes nouvelles au même tempo. Et donc la manière d'écrire, c'est d'abord venu par un tempo. Et j'ai ressenti, cette nouvelle est assez courte, en ayant fini de la lire, que finalement, depuis que j'avais commencé de la première phrase à la dernière, j'étais sur un rythme, j'étais sur un tempo, qui était ce tempo assez lent, assez posé, et que j'avais pris du plaisir à lire une nouvelle assez courte à ce tempo-là.
Quand vous dites, Vincent Courtois, le temps faisant, on abandonne certaines complications et on trouve plaisir et sens à commencer et un disque et un concert par des choses simples et belles, juste en les déposant comme ça, parce qu'en fait, ça a suffisamment de matière, ça a suffisamment de présence. Vous avez dû abandonner quoi pour arriver là ?
Oh, évidemment, l'idée de devoir montrer, de devoir prouver, de pouvoir dire ce qu'on est capable de faire, de pouvoir défendre aussi un langage, de pouvoir dire oui, je suis violoncelliste, mais je peux faire ça avec un violoncelle, et justement et faire autre chose que ce qu'on attend du violoncelle. J'ai passé quand même beaucoup d'années avec cette réflexion que j'entends encore maintenant, de dire c'est incroyable ce que vous faites avec un violoncelle, on pensait pas qu'on pouvait faire ça avec un violoncelle. Et peut-être que j'ai passé beaucoup d'années à vouloir dire et montrer tout ce qu'on pouvait faire à un violoncelle. Je pense maintenant peut-être avoir un petit peu dépassé ce truc-là, quoi. Et peut-être arriver maintenant à un moment donné où peut-être j'ai un peu moins besoin de le dire ou de le montrer. Que les choses sont peut-être un petit peu plus évidentes. Et puis aussi, il y a... Je pense beaucoup au plaisir permanent que je dois prendre dans la musique. Alors ça, je me dis ça depuis toujours, depuis des années, mais de plus en plus, ça devient une évidence que le plaisir peut être pris dans des choses extrêmement simples. Et c'est vrai que, pour revenir à Love of Life, ce premier accord de Do majeur, Do sol mi sur un violoncelle, les trois notes en même temps, c'est très très simple, mais c'est pas si simple à faire bien, mais c'est surtout, c'est très beau, et on peut y prendre énormément de plaisir.
Mais oui, parce que c'est un accord très généreux. C'est
absolument
aussi un accord qui est vraiment très offert, en fait, qui est très enveloppant. Oui. Et donc, du coup, c'est pour ça que je disais que ça me semble être aussi une manière d'être invitant, en fait, de poser ce premier accord-là.
Mais ça veut dire aussi que, justement, en concert ou sur un disque, quand je commence comme ça, c'est aussi, c'est une démarche, quoi. C'est une démarche, et c'est vraiment, à chaque fois, je me dis, avant de le jouer, de me dire, je vais vraiment prendre du plaisir à jouer cet accord de Do majeur, bon, tout simple, en pids, et de prendre le temps, et justement aussi de pas, dans l'excitation du concert, de pas aller trop vite au deuxième accord, de prendre le temps d'écouter, le laisser résonner, et passer peut-être la surprise que peut avoir le public d'un concert qui commence comme ça, parce que c'est pas si courant, que peut-être que ce public va aussi trouver du plaisir à être emmené dans cette histoire, Love of Life, et dans toutes les histoires qui vont venir derrière.
D'ailleurs, en fait, avant qu'on arrive sur toutes les histoires qui viennent derrière, ces accords se répétant, vous ne les jouez pas de la même manière, Vincent Courtois, ils se mettent à résonner, à avoir des rondeurs différentes, à se complexifier un peu, comme si on avançait juste tranquille, en fait.
Oui, alors après aussi, c'est... Je pense qu'il est question de maîtrise aussi, mais j'ai l'impression qu'aussi en avançant un petit peu en expérience, on passe sa vie de musicien à essayer d'aller vers le plus de maîtrise possible de l'instrument et de la musique. Et que cette maîtrise, eh ben justement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, nous permette d'en faire de moins en moins, et que par contre que chaque chose qu'on fait, chaque petit détail est totalement maîtrisé. Et c'est vraiment une sensation très égoïste, instrumentale, d'avoir cette sensation de maîtriser l'instrument. De maîtriser l'instrument même dans son accident. D'aller jusqu'au bout de ce qu'on connaît de l'instrument, et en effet que la moindre petite subtilité... Et ça me fait plaisir en fait ce que vous me dites là. C'est-à-dire que de me dire que finalement l'auditeur du disque entend ces choses-là, est capable d'entendre que finalement il y a plein de petites choses qui font qu'on croit que c'est toujours pareil, mais en fait non, ça ne l'est pas. Qu'en fait à chaque fois il y a une petite différence qui nous fait avancer dans un discours et dans une discussion, dans l'écoute d'un instrument qui est en train de nous parler comme quelqu'un nous parlerait, et d'écouter les moindres détails de sa voix. Et d'avoir la conscience que chaque intention qu'on va donner, exactement comme on discute là, chaque intention veut dire quelque chose, a un sens. Et je pense qu'en effet, on doit pouvoir arriver à une maîtrise maximum de l'instrument pour faire passer des émotions qui dépassent complètement le cadre instrumental.
On va aller vers toutes ces histoires qui se déploient, parce que si on commence par l'amour de la vie, d'ailleurs on pourrait peut-être revenir sur ce que c'est que de commencer par ça, Vincent Courtois, mais vous cheminez de texte London en texte London, on va écouter une archive de Francis Lacassin.
Et c'est un livre qu'il a écrit pourtant dans des conditions assez pénibles. Il l'a entièrement écrit à bord de son bateau, le Snark, en 1907, alors que ce bateau n'arrivait pas à quitter le port de San Francisco parce que la construction était interminable et dépassait tous les devis prévus, qu'au moment où le bateau allait enfin quitter le port, un créancier est arrivé et a fait saisir le bateau pour une note d'épicerie impayée, et qu'il a fallu, vous voyez, trouver de l'argent pour payer la note d'épicerie. Enfin, il a pu partir, et à ce moment-là, ce bateau, comme tous les gens, tous les spécialistes de la navigation l'avaient prévu, tenait mal la mer. Il a eu des quantités de problèmes de navigation, il a été obligé de changer trois fois d'équipage pendant le cours de la croisière. Et enfin, lorsqu'il est arrivé à Tahiti, Jack London espérait terminer ce roman avant d'arriver à Tahiti pour l'envoyer et recevoir de l'argent, parce qu'il avait de cruels besoins d'argent. Il n'a pas pu le finir à cause de tous ses ennuis, et puis par le fait que tout le monde était malade à bord du bateau, et qu'à un moment donné, il était le seul à ne pas être malade ou être moins malade que les autres. Et quand il est arrivé à Tahiti avec ce roman inachevé, et croyait enfin l'achever, Il a eu des nouvelles épouvantables de Californie qui font qu'il a été obligé de repartir par un bateau régulier à toute allure pour essayer de sauver son ranch qui allait être saisi, parce qu'il n'avait plus d'argent. Et il est revenu ensuite, toujours par un bateau régulier, et il a pu enfin achever le livre à Tahiti, ce livre qui ironiquement s'appelait « Succès », et qui est au contraire l'histoire d'un échec, et qu'il a fini par appeler « Martin Eden ». Martin parce que son cuisinier et fidèle compagnon à bord du bateau s'appelait Martin, et Eden parce que il venait chercher l'Eden dans les îles sur les traces de Melville.
De l'autre devant lui, il se rendit compte pour la première fois qu'il avait une façon de marcher différente de celle des autres hommes. Il eut soudain honte de sa démarche de rustaud. De minuscules gouttes de sueur perlèrent sur son front et il s'arrêta pour éponger son visage bronzé avec son mouchoir. « Attendez, Arthur, mon gars !» dit-il d'un ton badin pour essayer de masquer son angoisse. C'est trop à la fois pour votre serviteur. Laissez-moi le temps de m'y faire. Vous savez que je voulais pas venir et j'ai idée que votre famille est pas impatiente de me voir. Tout ira bien, répondit Arthur, rassurant. Nous sommes des gens simples. Tiens, il y a une lettre pour moi. Il revint vers la table, déchira l'enveloppe et se mit à lire, donnant à l'étranger le temps de se ressaisir. Et l'étranger lui en sut gré. L'autre lui offrait sa sympathie et sa bienveillance, et, sous son apparent désarroi, cette chaleur humaine produisait son effet. Il s'essuya le front et regarda autour de lui, le visage recomposé, mais avec dans les yeux cette expression qu'on voit chez les bêtes sauvages lorsqu'elles redoutent le piège.
Vincent Courtois, on s'est permis un petit montage de la voix de Denis Podalydès lisant Martin Eden sur Martin Eden Part 1 qui figure sur votre disque à vous. Et juste avant, on entendait une archive de Francis Lacassin s'exprimant aussi sur ce roman-là particulier qui s'est d'abord appelé Le Succès. C'était en 76, Lacassin commentait cette œuvre de Jack London, Martin Eden qui est là pour deux morceaux sur ce disque-là. Vincent Courtois, on entend bien qu'on est dans un tout autre endroit en fait que le premier morceau qu'on a entendu, que les choses avancent, qu'on est dans un cheminement qui est autre que l'homme blessé se battant avec le loup. Il a quoi comme place le texte de Martin Eden dans l'ensemble de cette entreprise, Vincent Courtois?
En fait, on a sur le Martin Eden, moi c'est un livre que j'ai découvert vraiment tard et qui m'a marqué. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mon cas en fait qui au moment de découvrir Martin Eden qui a été vraiment un livre puissant, formateur dans une certaine manière.
Parce que c'est un roman de formation aussi, c'est un roman d'initiation.
Complètement. Et en fait, l'idée était peut-être assez simple, c'est-à-dire qu'il y a deux morceaux dans le disque. Il y a deux morceaux qu'on appelait Martin et Eden parce que dans mon idée, ce qu'on écoutait là, c'était un peu le premier chapitre. Et justement,
oui, et c'est la lecture de l'ouverture.
Justement, c'est la lecture de l'ouverture. Et justement, ce que vous avez mis là, c'était justement ce premier chapitre qui est très très beau, quoi, qui est vraiment un chapitre absolument magnifique. Et puis bon, voilà, là, moi, je suis parti encore une fois sur une idée de vitesse, de tempo, de démarche, ce dont il parle, de gaucherie, et de repartir aussi sur un thème récurrent de ce trio-là, qui était au tout départ, parce que c'est un trio qui existe depuis une dizaine d'années, et au tout départ, j'avais travaillé un peu avec ce trio sur le monde forain, et j'avais envie de continuer un peu à creuser dans cette histoire de la beauté, de ce qui est vraiment beau, de ce qui ne l'est pas, de ce qui semble vilain et qui en fait est beau, et de tout ce jeu de miroir en fait entre un univers un peu de cette gaucherie de ce personnage dans ce salon bourgeois, et de trouver, d'aller chercher un peu cette démarche, cette et en même temps de trouver une légèreté dans cette gaucherie que je trouve très très belle, et de donner à faire sentir tout le potentiel et tout ce qui pouvait y avoir derrière ça. Et donc c'est comme ça que ce Martin est arrivé. Et le morceau qui vient derrière, qui est Eden, était dans mon idée un peu le dernier chapitre. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est un livre vraiment puissant que je me suis plu à lire plusieurs fois. Que j'ai découvert aussi le fait de le relire aussi en anglais, dans la langue originale, pour peut-être ressentir les choses un peu différemment. Et puis aussi, l'idée a été aussi dans le prolongement de ce disque, on a créé un spectacle qui s'appelle Auckland. Volontairement, qui s'appelle Auckland et non pas Martin Eden, c'est un spectacle autour de Martin Eden, donc qui se passe à Auckland, cette ville où nous sommes nous étions en juin dernier. Pour enregistrer le disque et aussi pour travailler avec le comédien Pierre Beau. Et donc c'est le trio augmenté du comédien Pierre Beau et du chanteur et songwriter gallois, un vieux camarade de route à moi qui s'appelle John Graves. Et voilà. Et l'idée a été en effet de dire on va pouvoir faire une forme d'adaptation, quelque chose autour de Martin Eden, mais on raconte quoi de Martin Eden? Et ça, c'est vraiment passionnant parce que chacun, je crois que beaucoup, beaucoup de gens ont lu ce roman et chacun se fait un Martin Eden différent et tout le monde n'y voit pas forcément les mêmes choses. Quels sont à quel endroit on a envie d'accentuer les choses, à quel endroit on a envie d'aller travailler, quels sont les chapitres qu'on a envie éventuellement de relire, quels sont les moments qui nous ont plus touchés, quels sont les moments pour nous importants du livre. Ben voilà, ça a été toute cette démarche et que chacun peut se faire, quoi.
D'autant plus peut-être, Vincent Courtois, qu'il s'agisse de Pierre Beau, comédien, John Greaves, musicien, songwriter, les musiciens qui vous entourent dans le trio, ça résonne un peu singulièrement, même si tout le monde peut procéder à toutes les identifications qu'il veut avec un personnage de roman, c'est ça qui est fabuleux. Mais ce qui se passe pour Martin Eden, c'est qu'il accède à la puissance de l'écriture, que d'un seul coup, il a la révélation que c'est là qu'il veut être, que c'est ça qui va le faire exister, que même au-delà de l'amour qu'il peut ressentir et qui est aussi l'un des moteurs du roman, il y a un amour pour la littérature qui devient le feu vital de son existence, et que pour des personnes qui, comme vous tous là, avez choisi de vous tenir, de tenir vos vies dans l'art, forcément, peut-être que ça dit des choses au plus profond de chacun d'entre vous.
C'est complètement, oui, c'est complètement évident. C'est-à-dire que ce qui est dans ce livre, on sent qu'il y a disons que cet amour de la littérature et cette volonté qu'il va avoir à un moment donné de se dire qu'il va aller dans ce chemin-là, on a l'impression qu'il n'y a pas le choix, en fait, qu'il peut pas vraiment faire autrement. Et le parallèle que moi je peux faire un peu avec la musique, c'est que je sais qu'à une époque, j'avais eu, par exemple, en stage, j'avais eu des élèves qui étaient venus me voir, qui se posaient la question de ce qu'ils allaient pouvoir faire, est-ce qu'ils faisaient de la musique, ou est-ce qu'ils faisaient plutôt médecine, ou est-ce que, etc. Et pour moi, ça me paraissait complètement absurde, parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais pas moi, quand j'ai décidé de faire de la musique, j'avais pas le choix. Je l'ai pas décidé. C'était une espèce d'évidence, quelque chose qui arrive. On peut pas faire autrement. On a quelque chose à exprimer. C'est un besoin évident. Et voilà, qui fait que de toute façon, on va aller vers ça. Et Martin Eden, on raconte ça. On raconte quelqu'un qui à un moment donné se trouve dans cette dans ce chemin, comme si un chemin sinueux était déjà un peu tracé pour lui, comme s'il savait que de toute façon il irait là.
Oui, il y a une histoire de destinée là-dedans.
Totalement. Totalement. Et même, il y a même à un moment donné, on a l'impression que justement, il a même plus le choix, quoi. Il a même plus le choix. Et il est tout le temps confronté un peu à des dualités, tout le long, il y a cette recherche de qui il est, de qui il doit être, de où est sa place, de voilà. Et c'est pour ça aussi que ce travail, on l'a fait avec Pierre et John, par exemple, pour avoir deux personnages qui a eux deux créé Martin Eden, indépendamment du fait d'avoir la langue française et anglaise. C'est ça aussi ce qui se passe dans le spectacle.
Et c'est des dualités qui peuvent se retrouver dans la composition musicale, Vincent Courtois. Est-ce que c'est des choses qui peuvent... Je sais pas, tout à l'heure on parlait du plaisir simple à poser un accord de Do majeur pour ouvrir un album. Est-ce que ces tensions... Parce qu'on parle d'un chemin initiatique pour Martin Eden, mais c'est la galère. C'est hyper dur, tout est difficile, tout le temps. Et il envoie ses manuscrits, ça marche pas, il veut être en amour avec une femme et c'est compliqué, enfin tout est dur. Est-ce que ça existe dans l'écriture?
Complètement. Je sais que j'ai écrit la musique à chaque fois en pensant tout le temps à ces tensions et à ces contradictions. C'est par exemple, on a beaucoup joué sur ces histoires d'avoir parfois deux chemins musicaux qui avancent d'une manière parallèle et qui se contredisent. Et voilà. Et ça c'est très très c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis longtemps de toute façon avec le trio. C'est à quel moment est-ce que chacun prend sa place dans la musique et de quelle manière et quels sont les choix qu'on va y faire, notamment dans des moments improvisés. Les moments d'improvisation, ça me semble, par exemple, on travaille beaucoup dans l'improvisation, on travaille tout le temps beaucoup sur l'interaction. On nous parle beaucoup d'interaction musicale, de quelle manière est-ce qu'on interagit avec l'autre, de quelle manière est-ce qu'on répond, de quelle manière est-ce qu'on joue avec ou de quelle manière est-ce qu'on joue contre. Mais je pense qu'on peut aussi, et ça on avait déjà travaillé ça, c'est un travail qu'on fait depuis longtemps avec le trio. On avait fait ça sur le disque d'avant, sur Bandes Originales.
Donc j'arrête dans son couloir.
C'est de faire
être dans son couloir.
Voilà, c'est exactement. C'est de faire un travail où chacun reste dans son couloir sans aller chercher une interaction. Que l'interaction peut se faire justement, et c'est peut-être une des choses les plus difficiles, c'est que chacun de rester dans un discours et que chacun reste dans cette histoire-là. On avait fait ça sur Bandes Originales pour on cherchait à retranscrire des dialogues du rayon vert d'Éric Robert. C'était ça le projet. Et justement, d'avoir cette espèce de chose de gens qui racontent, cette simplicité qu'il peut y avoir dans cette fausse simplicité des films de Romère, avec des gens qui racontent des choses très simples de leur quotidien. Et chacun avec cette sensation que chacun raconte son histoire, mais sans écouter l'autre. Vous voyez, cette espèce de chose, et qui donc complètement inverse à l'interaction. Finalement, là, il n'y a plus d'interaction.
Oui, ou à ce qu'on s'imagine être aussi les interactions. Voilà. Parce que parfois, on imagine bien communiquer, ou on imagine vraiment jouer ensemble, alors que chacun...
Absolument.
Est probablement resté dans sa solitude.
Voilà.
On va écouter un homme que, il paraît, vous aimez bien.
Ma musique préférée, c'est la musique de jazz. Je suis un forcené de la musique de jazz.
Et même du free jazz?
Oh, j'aime toutes les formes de jazz. J'aime ça,
oui. Ah oui. Les Negro Spirituals?
Bien sûr. J'aime surtout la musique de jazz. Et j'aime aussi la musique classique, bien sûr, mais à un degré moindre. Parce que j'ai été, pour employer encore un terme à la mode, vous voyez qu'on ne peut pas s'en sortir, conditionné quand même par la musique de jazz. Je suis né en 1921... Et surtout les phonographes, après 25, 26, évidemment, la musique de jazz, indirectement, nous est venue par les copies qu'on en faisait ici. En 1925, on faisait les Fox, on faisait les One Step, on faisait des musiques qui étaient des copies des musiques de jazz. Alors j'ai commencé à goûter le jazz, si vous voulez, indirectement, par des gens qui avaient été imprégnés par le jazz. Et puis, j'en suis venu après à écouter les jazzmen, c'est-à-dire Armstrong, c'est-à-dire Duke Ellington, c'est-à-dire tous les jazzmen de l'époque.
Mais c'est assez curieux parce qu'il y a peu de jazz dans votre musique.
Mais si, il y en a énormément. Il faut demander ça aux musiciens, ils vous le diront.
La grande classe de Georges Brassens. On est en 1979 sur France Culture. Il est interviewé par Philippe Nemo. Et déjà, c'est précieux d'écouter Brassens. C'est assez rare dans cette forme parlée. Et dans la manière dont il dit, mais si, il y a du jazz partout dans ma musique. Et si je suis venue au jazz, c'est parce que, en fait, le jazz était là et que sur les phonographes, ça tournait et que c'est rentré comme ça un peu dans ma vie. Est-ce que vous diriez, Vincent Courtois, que c'est comme ça qu'il est aussi rentré dans votre vie, le jazz ?
Oh, le jazz, il est, je suis pas complètement de la même
génération que Brassens.
Même génération que Brassens. Mais bon, on va parler du jazz plus que de Brassens, parce que si vous me lancez sur Brassens, ça peut prendre un peu de temps.
On peut faire un peu des deux.
Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, ce qu'il dit est complètement vrai. C'est-à-dire qu'il y a il y a deux choses qui m'ont passionné chez Brassens, au-delà du poète et de ce que tout le monde voit. C'est le mélodiste, en effet. Et il y a les mélodies de Brassens sont absolument sublimes. Bon, ça, c'est pas une grande découverte, c'est pas une grande révélation de dire ça aujourd'hui.
Quoique, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un art très répétitif que l'écriture de ces mélodies-là, et que finalement, c'est un mec qui chantait toujours un peu la même chose.
On imagine ça, alors je sais que.
C'est un poil plus complexe.
Dans moi, mes obsessions de musicien et de compositeur, alors j'emploie le mot compositeur je me sens pas complètement un vrai compositeur légitime. Moi, j'écris des bouts de petits trucs qui permettent aux autres de jouer, qui permettent de faire des groupes. Je me sens pas comme un. Mais bon. En tout cas, dans ma démarche de compositeur à moi, une des choses essentielles qui me guide, c'est la mélodie. Peut-être que c'est lié à l'instrument que je joue, le violoncelle, mais c'est une chose qui me, dans certains des morceaux que je peux écrire, me manque. C'est quand je sens que la mélodie n'est pas vraiment là, ou plutôt qu'elle est faible. Et je suis toujours à la recherche de la mélodie parfaite, parce qu'une mélodie réussie est parfaite. Ça fait partie du c'est comme ça, une mélodie, elle est pas c'est pas un peu mélodique. La mélodie parfaite, c'est que la boucle est bouclée, on part du point A, on va au point B, et au milieu, avec ces 12 fichues notes qu'on a depuis toujours et ces quelques valeurs rythmiques, on arrive encore à trouver quelque chose qui a jamais été trouvé avant et qui est une mélodie parfaite et idéale,
et qui généralement nous donne envie de la reprendre au point A quand elle est parfaite.
Absolument, et de revenir. Et là, mon Brassens, alors là, c'est pour moi, c'est un maître absolu de ça. Il n'y a pas une mélodie de Brassens qui soit pas complète. Et en plus, alors, et lui en plus, il a réussi pour moi quelque chose qui est un autre exploit, parce que écrire une vraie mélodie est un premier exploit. Mais le deuxième exploit, c'est que la mélodie colle absolument, parfaitement, dans une symbiose parfaite, idéale, avec le texte. Et ça veut dire que là, c'est chaque note va avec un mot, une syllabe. Et ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire qu'on arrive même finalement à se souvenir de la chanson par le texte et du texte par la mélodie. Et tout fonctionne ensemble. Donc là, c'est un tour de force incroyable. Voilà, donc c'est pour ça qu'en effet, moi, Brassens, ça a été vraiment, c'est quelqu'un pour moi de vraiment, ouais, vraiment essentiel dans mon histoire musicale, vraiment un exemple. Et puis en effet, après, ce qui est délicieux d'écouter tous les interviews de Brassens, c'est là pour le coup une humilité et une classe. Vraiment.
La classe, mais en même temps, il est humble, je l'accorde, mais il est aussi absolument sûr de son fait quand il dit à Philippe Nemo, si, il y en a partout du jazz, demandez aux musiciens.
Oui, il a raison, on peut demander aux musiciens, et en effet, oui.
Il y en a partout du jazz, c'est
vrai. Ah bah oui. Oui, ne serait-ce que déjà par cette histoire mélodique, puis aussi par ces petites tournures harmoniques qui placent un peu partout, qui déplacent le morceau à un endroit où on ne l'attend pas. Enfin, il y a beaucoup d'accidents dans ces mélodies. Et c'est complètement c'est pour moi, c'est vraiment un de nos grands génies, quoi. C'est un de nos grands génies qui justement réussit aussi le troisième tour de force, qui est de se placer entre le compositeur, le poète et le chansonnier. Enfin, il est au milieu de tout ça. Il n'est pas dans une espèce de case bien rangée. On ne sait pas trop, finalement, on ne sait pas trop le mettre. Et en effet, souvent, on voit juste le gars qui chante sa chanson avec une espèce de bonhomie comme ça. Mais derrière tout ça, il y a vraiment autre chose.
Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on se s'éduque à l'art de la mélodie? On entendait Vincent Courtois, la première phrase mélodique du disque. On entendait dans la première partie du morceau de consacré à Martine Eden aussi. Même, je vais utiliser ce mot-là de ritournelle, puisqu'en fait, elle se met à tourner, parce que vous la répétez, mais aussi parce que probablement elle atteint cette unité dont vous parliez. Ça, c'est quoi? C'est qu'on a écouté beaucoup de musique et qu'on a...
Ouais, peut-être, mais je crois que ça vient beaucoup par le chant, par la voix. Je crois que c'est vraiment... Enfin, pour moi, une bonne mélodie vient tout d'abord naturellement par le chant. Et toutes les mélodies que j'ai pu écrire et qui me semblent réussies sont venues comme ça. Et c'est vrai que, par exemple... Je suis dans Paris en deux roues et
roues avec moteur ou sans moteur?
Et avec moteur et je chante et quand.
Et vous chantonnez quoi? Vous
mais
chantonnez
oui, mais, oui, mais quand on voit le gars qu'on voit ce qui s'est arrêté sur le bord de la route avec son casque et qui chante dans son téléphone pour pas oublier la mélodie qu'il est en train de chanter, c'est moi. Voilà. Et voilà, c'est comme ça. Bon, ça passe d'abord par la mélodie. Mais je sais que aussi c'est. Le point de départ d'une mélodie, moi souvent, c'est pour ça que le travail sur Jack London a été assez facile finalement, c'est que souvent une histoire ou un personnage ou un décor ou comme on disait tout à l'heure ou une vitesse vont me donner une idée mélodique. Et c'est assez bizarre comme chose. Ça m'est arrivé vraiment souvent d'expériences où on me raconte un petit bout d'histoire et immédiatement je me suis, par exemple quand j'ai fait la musique de Ernest et Célestine,
un film d'animation,
on m'a appelé, on m'a raconté un petit peu comme ça au téléphone cette histoire, l'ours, la petite souris qui doit vivre ensemble machin. Et puis il y avait le personnage de Célestine, elle est comment? Bah c'est une petite souris, donc elle est un peu fragile, mais en même temps elle a une certaine insolence, en même temps elle est pas comme autre. Enfin, on m'avait un peu expliqué tout son personnage et leur histoire qui était un peu bancale quoi. Je me souviens très très précisément de ce moment où j'ai raccroché le téléphone et je me suis mis au piano et j'ai chanté tout de suite la mélodie qui pour moi était la mélodie de Célestine et qui est restée comme la mélodie de Célestine. Et c'est venu comme ça par le chant parce qu'on m'avait raconté et tout de suite j'ai écrit les 8 premières mesures d'une mélodie. Et voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et sur toute l'histoire Love of Life, c'est beaucoup beaucoup venu comme ça aussi.
Alors on va en écouter un autre extrait de Sea Wolf, le loup des mers. Thank you.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Vincent Cantois.
Je vais chez le luthier pour mon plaisir et rarement pour mon instrument. C'est-à-dire, je ne fais pas partie de ces gens qui, quand ça ne va pas, oh là là, Étienne, ça sonne mal, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, écoute, il y a un petit bruit, écoute ceci, écoute cela. Ça ne m'arrive pratiquement jamais. Quand ça ne va pas, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu es en train de faire qui ne va pas.
Vous dites que c'est vous.
Et l'instrument a le droit de ne pas être tous les jours, de ne pas sonner de la même façon. C'est du bois, ça vit, ça bouge, il fait chaud, il fait humide, il fait sec, il fait froid, il fait bon. Et ben voilà, et nous aussi, on n'est pas tous les jours d'humeur absolument égale. Et bien l'instrument, je pense, a le droit d'avoir lui aussi ses humeurs. Et c'est à nous de trouver le meilleur point de rencontre possible entre l'humeur momentanée de l'instrument et puis la nôtre. C'est la mémoire de tous ceux aussi qui ont joué ces instruments. Je suis sûr qu'un instrument qui est joué toute sa vie par une personne brutale ne sonnera pas comme s'il avait été joué toute sa vie ou pendant toute la vie d'une personne douce ou quelqu'un qui est égoïste, ça ne sonnera pas comme quand c'est joué par quelqu'un qui est généreux. Ça, je suis absolument persuadé de ça. Mais je suis sûr qu'on peut casser ou contraindre un instrument comme on peut éventuellement forcer une voiture. Je pense que, de toute manière, du moment qu'on a quelque chose ou quelqu'un en face de soi ou quelque chose ou un objet entre les mains, eh bien... Il s'établit quelque chose de très particulier, et le fruit de ce très particulier, c'est justement naît de cette chimie entre l'objet et l'individu ou entre les êtres. C'est pas neutre tout ça. Il est impossible que ça soit neutre.
On est en 1996 sur France Culture, c'est l'émission Le Bon Plaisir avec le musicien Alain Meunier. En réécoutant l'archive, là, je repensais à une métaphore peut-être encore plus prosaïque, qui est un stylo plume. C'est ça, non? Un stylo plume, c'est un peu fait à ta main. Et puis, si quelqu'un d'autre écrit, eh ben, en fait, on sent qu'il y a quelque chose de la mémoire, de la manière dont l'autre écrit ou tient le stylo, qui te guide ou qui te gêne en fonction de ton accointance. Bref, c'était ma petite métaphore. Vincent Courtois, qu'est-ce que vous en dites, vous? Est-ce que vous pensez que l'instrument, de manière générale, ou le violoncelle, de manière particulière, est à ce point poreux?
Complètement. Déjà, en effet, par rapport à l'histoire de l'instrument, j'ai toujours imaginé qu'on était les passagers de l'instrument. On est les passagers pour un temps. Voilà.
Moi, et j'ai pas l'inverse.
J'ai la chance. Je vois plutôt dans ce sens-là. Moi. J'ai la chance de jouer un très bel instrument depuis que j'ai 16 ans. Donc j'ai eu la chance d'avoir cet instrument assez jeune.
Et c'est le même.
C'est le même, ouais. Et donc c'est vraiment, c'est vraiment le violoncelle de ma vie, quoi. Et voilà. Et en fait, il a été, c'est le dernier instrument d'un grand luthier. Et lui, il a été fini en 1882.
D'être fabriqué.
Oui. Donc ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu une histoire. Et moi, très souvent, je le regarde en me disant, mais qu'est-ce qu'il a vécu, quoi? Qu'est-ce qu'il a vraiment vécu? Alors j'ai quelques indices. Je sais qu'à un moment donné, je pense qu'avant moi, il appartenait à une personne assez âgée qui devait avoir une pique en bois et qui, on voit qu'il avait du mal à trouver l'endroit pour mettre la pique en bois et qui tapait tout autour. Il y a des impacts à des endroits, il y a des choses, il y a des petites souffrances qu'il a eues à des endroits, cet instrument. Donc on peut imaginer. On peut lui imaginer toute une histoire. Déjà, bon, là, on n'a pas le temps ici, l'histoire est trop longue, mais déjà, moi, mon histoire, comment, d'où vient cet instrument, c'est une histoire très très longue, mais ça veut dire, en tout cas, il y a eu...
On a du coup un peu envie de l'entendre, quand
y a
même.
Eu... c'est trop long. Mais il y a eu des... Mais il y a eu des... En tout cas, il y a eu des gens... En fait, il y a eu des gens avant qui l'ont eu avant moi. Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, un petit bout de l'histoire, c'est que quand le luthier l'a fini... Il a, lui, de sa main, au crayon à papier, en haut de la table, à l'intérieur, à un endroit où personne ne peut le voir, il l'a signé, lui, en disant qu'il le faisait dans sa 81e année. Et donc, vu les dates de son décès, on sait que c'est donc le dernier instrument qu'il ait fait. Et qui a été ensuite, qu'il a ensuite donné à vendre à son beau-fils, qui lui a mis dedans une étiquette, qui était l'étiquette de ce beau-fils, mais qui ne correspondait pas au nom en question. Donc il y a un petit mystère, un petit secret comme ça qui arrivait. En tout cas, pour dire que c'est un très bel instrument, et pour moi, ça compte, ce qui compte, c'est de réussir, bon, évidemment, d'une part, première chose, de réussir à le garder le plus proche possible de son état original. C'est là où je m'estime passager de l'instrument, d'y faire attention. C'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est de lui donner de la musique. Ça, c'est peut-être la plus importante, c'est lui donner de la musique. D'essayer de le jouer le mieux possible. D'essayer de dire qu'un instrument comme ça mérite de jouer, d'être très bien joué, mérite de la belle musique, mérite de rencontrer d'autres musiciens. Et mérite en effet d'avoir une mémoire, d'avoir de rajouter, et moi j'espère rajouter une grosse partie de sa mémoire, de toute la musique qui est passée par cet instrument-là.
Mais donc ça veut dire que vous imaginez le transmettre?
Et j'imagine absolument. Et je sais très bien qu'à un moment donné, il va pas, lui la différence de moi, lui sa vie va continuer après la mienne. Et donc j'espère, et c'est vrai que c'est une question auquel moi je pense souvent, c'est me dire qui aura cet instrument derrière, qui le jouera, et qu'est-ce qu'il en fera. Et c'est vrai qu'il y a, c'est un peu bête, mais il y a quelques destinées possibles que j'aimerais qu'il n'ait pas. On verra bien. Mais ça, c'est après il y a une chose aussi, ce qui est incroyable avec des instruments comme cela, c'est qu'ils vous transmettent sur une longue période. C'est-à-dire que quand je pense finalement que je commence à réaliser aujourd'hui. Et peut-être on peut y voir un lien avec ce premier accord de Love of Life dont nous parlions tout à l'heure, que peut-être que quand j'ai eu cet instrument à 16 ans, c'était plus qu'un beau cadeau que mes parents m'ont fait, mais c'était peut-être que j'étais pas prêt, peut-être que je le méritais pas complètement.
Mais qui est prêt à 16
ans? C'est-à-dire que j'étais peut-être pas, non mais peut-être que j'étais pas prêt à donner à cet instrument ce qu'il avait à me donner, d'avoir cet échange, et j'ai l'impression aujourd'hui, depuis quelques années, d'arriver à vraiment un moment où on est tous les deux dans une relation, vraiment arrivée au bout d'un certain nombre d'années avec tout ce qu'il m'a fait, parce qu'il m'a fait aussi parfois du mal. Et moi aussi. Et on a eu des relations parfois compliquées. Je pense aussi à tous les voyages que je lui ai fait faire.
J'avoue, je me dis, mais est-ce qu'il prend l'avion?
À un moment donné, là, depuis un petit moment, je le prends plus trop dans l'avion. Je le préserve un peu, j'ai un autre violoncelle pour prendre l'avion, mais plus jeune, sans trop forcément me rendre compte de ce que j'avais entre les mains. Eh ben oui, je sais que mon premier voyage en Afrique, c'était au Soudan. Et il est venu avec moi, ouais, dans une grosse caisse blanche. Et je le revois, la caisse blanche sur le tarmac de l'aéroport, hein, en plein soleil, à attendre qu'on veuille bien l'embarquer parce que c'était un peu hors format. Et j'ai plein de souvenirs comme ça à me dire, oulala, est-ce que bon. Mais ça, finalement, j'ai réussi à le, il est en très bel état. Mais en mis encore plus important, c'est toute la musique qui est passée par lui, des choses qui ont été réussies, des choses un peu moins. Et voilà. Et après, c'est vrai que maintenant, je prends vraiment, je prends aussi ce plaisir à l'emmener en studio, à enregistrer et à le faire s'exprimer complètement. Mais oui, c'est en tout cas, est-ce que c'est pour eux? Oui. Et est-ce que on a une relation qui dépasse l'objet? Oui. Après, en effet, où je suis absolument d'accord dans ce que dit Amélie, c'est que après c'est un outil, voilà, c'est un très bel outil, c'est un très bel outil dont on se sert, mais c'est un outil, c'est juste ça. Il faut pas non plus passer son temps à, et c'est un outil dans le sens où il a besoin d'être utilisé. C'est pour moi, il y a rien de pire que l'instrument qui est enfermé dans un coffre-fort et qui ne joue jamais. C'est pas possible. Un instrument doit vivre. Il y a d'ailleurs des instruments qui se vident à force de pas être joués. Et lui, il faut. On a besoin de le jouer. Et voilà. Et je sais que je l'avais un petit peu justement, comme j'ai beaucoup tourné avec l'autre violoncelle parce que j'étais en avion, etc. Je l'avais un petit peu mis de côté. Je l'avais pas joué pendant un peu longtemps. Quand je l'ai repris, j'ai vraiment eu le sentiment qu'il me faisait la gueule, quoi. Et ça allait pas. Ça allait pas entre nous et donc je suis allé chez le luthier, on a refait des réglages, on a retravaillé l'instrument, on a repris un peu l'instrument des endroits que j'avais plus à jouer et depuis maintenant quelques années là, on retrouve une relation complètement passionnelle en fait.
Et l'archer?
Alors là, si vous me lancez sur l'archet, là, c'est encore là, j'en ai pour des heures aussi. Ah bah l'archet, c'est finalement. Parfois, je me dis que si je devais choisir, s'il y a une chose que je dois garder avec moi, ce serait mes archets. Ce serait que voilà, c'est le fait de. Alors après, mais les archets, c'est encore plus, c'est peut-être encore plus capricieux. C'est-à-dire que selon les moments, selon les années, selon les œuvres qu'on travaille, selon ce qu'on est en train de jouer, c'est pas forcément la même chose. Mais en tout cas, c'est le prolongement du bras, donc c'est vrai que ça dépend de ce qu'on est en train de chercher ou en train de le chercher. En ce moment, je travaille sur des. Je ressens le besoin d'avoir un archet très dynamique, presque assez nerveux pour peut-être compenser moi une envie de me poser. Vous voyez ce que et donc peut-être un archet un peu trop souple et trop dans le sens de ce que je suis en train de chercher. Ouais, donc là, ça devient beaucoup plus complexe. Et puis en plus, l'archeterie est une histoire mystérieuse, passionnante, qui tient finalement dans un siècle et demi entre deux villes principales qui sont Mirecourt et Paris. Il y a, on va dire, grosso modo, peut-être qu'il y a 70-80 archetiers qui comptent vraiment. Donc finalement, ça tient sur très peu de temps et tout est là. Et tout est là en très peu de temps. Toutes les améliorations s'est faites là. Toutes les grandes signatures, tous les grands archets sont de cette période-là. Ça tient sur une période très très courte et finalement avec les archetiers actuels, les experts qui sont pour moi un peu des sorciers, qui sont capables de reconnaître, qui savent reconnaître un coup de canif, quoi. Et ça c'est. C'est une.
Mais voilà. Alors, vous êtes complètement. En vous écoutant, je me dis, mais il est complètement dépendant de ces sorciers-là. Parce que vous faites quoi? Vous allez les voir et vous leur dites, je veux un archer. Bonjour, monsieur, madame. je voudrais un archer qui aille pas exactement dans le lit de la rivière qui coule en ce moment pour moi. Débrouillez-vous.
Alors, justement, c'est là où ils sont sorciers d'une certaine manière, mais nous, on l'est aussi. Et ça veut dire que. Il y a un tas de choses, je crois, que les archetiers, comme les luthiers, sont capables de voir que moi, je ne vois pas. Par contre, moi, j'ai deux éléments principaux dans mes choix, et qu'eux n'ont pas. Qui est mon ressenti.
Qui vous appartient.
C'est mon ressenti qui m'appartient, et la connaissance que j'ai de l'objet et de le jouer, et de savoir l'objet qui joue et celui qui joue pas. Donc ça, moi, je le ressens, à mon avis, plus fortement qu'eux peuvent le ressentir. Et puis après, il y a une chose aussi qui est essentielle, qui est le goût, la beauté de l'objet et ce qu'il nous raconte, la sensibilité. Et en fait, on doit pouvoir ressentir même la personnalité de celui qui l'a fait dans l'objet en question. Mais vraiment, on peut ressentir des traits de sa personnalité très précises qui peut être à certains moments un peu, je sais pas, de l'agressivité, de la douceur, de l'humour, enfin il peut y avoir toutes ces choses-là apparaissent dans cet objet. Et ça finalement, ce que l'objet me raconte à moi, ça j'ai besoin d'être ni archetier ni luthier pour le savoir. Donc ça me donne déjà quand même deux éléments principaux pour savoir ce qu'il me faut. Voilà. Et puis après, on a l'habitude de dire qu'un luthier ou un archetier, c'est un peu comme un médecin, mais c'est un peu vrai. Hein. Il y a eu aussi une relation comme ça.
Et pour qui? Pour l'instrument ou pour l'instrumentiste?
Pour l'instrumentiste. Pour l'instrument de manière basique, il faut faire ça à tel endroit, mais pour l'instrumentiste, d'essayer de comprendre de sa part ce que veut l'instrumentiste, et puis nous aussi, avec le luthier, de réussir à lui parler et à lui exprimer ce qu'on recherche. C'est une longue relation, mais c'est pour ça aussi que c'est des vraies relations humaines en fait avec des luthiers. Il y a des luthiers avec qui ça se passe pas bien, il y en a d'autres avec qui ça se passe bien, c'est tout, c'est comme ça. Mais en tout cas c'est des domaines enfin moi qui me passionne et qui font aussi, je pense que on a besoin de plus en plus. Je réalise que j'ai passé des années sur ces instruments, sur les archets, sur les violoncelles, en n'en sachant pas grand chose. Et de plus en plus, ça me semble vraiment intéressant de savoir comment c'est fait, qui sont ces gens, d'où ça vient, et d'avoir aussi une vraie connaissance de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de jouer.
Tout ça pour poser le plus savamment et doucement du monde un accord de majeur au début de Love of Life. Merci beaucoup Vincent Courtois. Je rappelle le nom des personnes qui vous accompagnent, Robin Finker et Daniel Erdmann. Sur ce disque qui paraît à la Buissonne, vous serez en concert Gradignan, Théâtre des Quatre Saisons le 2 avril, Jazzy in Arles le 12 mai, le 17 mai à l'espace Georges Simenon à Rosny-sous-Bois. Et puis on a parlé aussi d'Ernest et Célestine, ciné-concert le 2 avril au Philharmonie de Paris et le 15 mai dans ce même espace de Rosny-sous-Bois. Merci.
Merci.
À la réalisation ce soir, c'était David Travailleur. Un grand merci à lui, à la prise de son Olivier Dupré, Par les temps qui courent, c'est Jeanne Aléos, Romain Debec de Lièvre, Marianne Chassor et Julie Ascal. C'est aussi une page sur franceculture.fr, Par les temps qui courent, avec une petite enveloppe tout là-haut pour nous écrire. On est toujours ravis de vous lire. Et c'est un podcast via notamment l'application Radio France. Dans un instant, 22h, le journal sur France Culture. Très belle soirée à toutes et à tous. Thank you.